Bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune. Tout de suite, retrouvez Alexis et son invité pour une heure de discussion autour d'une thématique de cinéma.
Et de retour dans votre émission mensuelle 100 ans de cinéma et des poussières, hein, parce que ça fait un peu plus que 100 ans quand même que ça existe, le cinéma. Une émission donc dédiée à tout le cinéma, à toute l'histoire du cinéma, sous différents angles, avec à chaque fois tout de même une thématique spécifique qui est à chaque fois décidée par notre invité. Et notre invité du jour, c'est David Morin-Hullmann. Bonjour David.
Bonjour Alexis.
Et merci beaucoup d'être là avec nous pour cette heure, voilà, très, très libre dans sa forme pour parler cinéma et autres, hein, puisque toi tu touches à pas mal de disciplines différentes, c'est comme vrai. On va pouvoir le découvrir tout de suite. Et la thématique que t'as proposée donc, pour aujourd'hui, même si c'est pas exclusif, c'est celle donc de Sherlock Holmes au cinéma et autres. Si je ne dis pas de bêtises.
Exactement. Sachant que oui, comme je t'avais dit, il y avait un papier qui va sortir à la fin 2021 ou début 2022. Donc je me suis dit peut-être que pour les auditeurs et pour aller plus loin, c'était possible d'allier à la fois radio et papier, quoi.
Oui, bah tout à fait. C'est vrai qu'on mettra bien entendu les infos sur cette publication lorsque ça sera disponible. Et puis merci aussi, j'en profite quand même, merci d'être là alors que tu es un petit peu malade.
Oui, ça s'entend légèrement. Je pense que c'est à force de... nous en rions tout à l'heure, mais c'est à force de fumer des cigares. Je pense que j'ai pris un coup de froid en fumant un cigare avant-hier.
Très bien. Et bon, j'espère que tu vas tenir le coup quand même pendant toute l'heure.
Je crois aussi, mais tu sais... La première chose, c'est d'entendre Elvis.
Oui.
Ça met tout de suite de bonne humeur.
Ah, personnellement, oui, moi j'aime beaucoup. Elvis, donc, ouais, qui est toujours sous l'égide de qui on commence toujours cette émission. Alors, pour te présenter un petit peu, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pour nos auditeurs et auditrices. Alors déjà, moi je tiens à préciser que nous nous sommes rencontrés au cinéma Le Concorde.
Ah oui.
Là où tu as présenté plusieurs films déjà, mais notamment un pendant les 100 ans, qui était Invasion Los Angeles.
Exact.
Et que tu as choisi et présenté au public, qui était d'ailleurs rempli de... À l'époque, je ne sais pas si c'était tes élèves, mais ils avaient...
Des étudiants de différentes écoles, en fait, puisque... on va en parler un peu, mais c'est vrai que tu es un peu prof. Et donc, en étant un peu prof dans le supérieur, je fais venir parfois des... Enfin, je fais venir... Les étudiants viennent et payent, hein, c'est pas moi qui leur paye leur place. Mais c'est vrai que la présentation de l'invasion Los Angeles, The Live, c'était un grand moment avec Sylvain.
Ouais.
Et puis évidemment le Concorde. Ouais, c'était bien ça.
Et bah oui, moi j'ai bien aimé. Puis de toute façon, ça vaut toujours le coup de revoir Invasion Los Angeles sur un grand écran.
Ouais.
David, donc tu es passé par l'université.
Oui.
Tu as même passé pas mal de temps à l'université.
Oui, jusqu'à 31, 32 ans. Ouais, je suis un grand étudiant. Ouais.
Et t'as touché à pas mal de disciplines sur place.
Oui, j'ai un peu glandé en droit. Et puis, après avoir glandé en droit, j'ai attrapé certains diplômes qui m'ont permis de retourner en socio, en philo. Et puis, j'ai été chercher donc, un doctorat en sociologie de la culture. Ouais. Et puis, quelque chose en philosophie de la technique.
D'accord. Donc, c'est un vrai bagage universitaire, du coup.
Oui, c'est vrai. J'avais... un bagage universitaire, mais si on peut être... Nous sommes sur une radio universitaire,
oui.
Mais j'étais peut-être un petit peu trop cow-boy. Je me permets de dire ça ici, mais j'étais un petit peu trop cow-boy. Et ce qui fait que, comme je dis à mes enfants, je suis un intellectuel à moitié raté ou un intellectuel à moitié réussi. Parce qu'un intellectuel, ça passe par l'université. Et aujourd'hui, je suis dans des grandes écoles, mais plus l'université. J'ai quitté à partir de 2014. J'ai quand même donné des cours en une quinzaine d'années.
D'accord.
À l'université, de 1999 à 2014.
Des cours en sociaux.
Sociologie, philosophie, philosophie de la technique à Angers, sciences de l'information et de la communication en Avignon, puisque j'étais là-bas un temps, en tant que ce qu'on appelle chargé de... Enfin, ATER, enfin bref. Et puis après, des charges de cours, donc de 1999 à 2014, à l'Université de Nantes, en sociologie, l'UFR de sociologie.
Et du coup, pour la thématique qui nous intéresse, je veux dire, le cinéma, d'une manière générale, toi, tu l'utilises dans tes cours, finalement.
Oui. En fait, je me suis aperçu, mais comme nous en parlions aussi tout à l'heure, si je puis me permettre, le cinéma... contemporain, très contemporain, c'est-à-dire la deuxième moitié du XXe siècle, permet d'explorer des thèmes de philosophie, de sociologie ou de psychologie pour des universitaires. Et à partir du moment où l'universitaire s'en charge, il va légitimer le cinéma, c'est-à-dire légitimer, c'est il va le valoriser. Et depuis les années 50, disons 50-60, en France, ce qu'on a appelé la pop philosophie, et puis ensuite la sociologie du cinéma, et la sociologie de la réception des œuvres, en fait, les universitaires ont légitimé le cinéma, ont valorisé le cinéma, comme si c'était un art non plus moyen, puisqu'on a considéré longtemps la photographie et le cinéma comme un art moyen, mais là comme un art, comme un grand art. Ce qu'il est, au sens où il y a de nombreux symboles et de nombreuses perspectives à l'intérieur d'une même image, mais justement, c'était problématique pour beaucoup de gens, c'est que l'image était plus complexe, voire trop complexe. Alors que l'écrit, évidemment, est quelque chose, l'écrit, je parle littérature et je parle philosophie ou sociologie, l'écrit est quelque chose de moins complexe, c'est-à-dire qu'on a moins de perspectives, moins de connotations. Dans une image, tu peux la voir en fait à 5, enfin peut-être pas à 5 ans, mais tu peux la voir à 10 ans, à 15 ans, à 25 ans et à 50 ans. Et évidemment, tu y vois toute ta propre culture. C'est un peu ce qu'on appelle un test de Rorschach. Ouais. Donc une image, c'est un test de Rorschach. Quand tu vois 2001 de l'espace à 13 ans, ce qui était mon cas. Et puis ensuite, tu le revois à 26 et à 33 et à 50, évidemment, ou à 70. Tu vois toute ta vie, en fait, défiler, pour ceux qui ont vu le film. Ouais. Mais surtout, tu conçois que c'est un test de Rorschach, que l'image a beaucoup plus d'ouverture. C'est ce qui fait peur, en fait, à l'université. Enfin, c'est ce qui faisait peur à l'université avant les années 60.
OK. Oui, donc ça, il y a quand même... Maintenant, on peut en parler quand même de cette pop culture.
Alors, Pour deux raisons, parce que en fait, les chercheurs sont en fait des mômes, ouais. Qui avaient des mômes qui sont nés en 70, et maintenant ces mômes-là, ils ont 50 ans. Ouais. Donc, à partir du moment où, je ne sais pas, comme John Carpenter, avec tous les films de John Carpenter, ou toute la clique californienne des films de zombies, ou Romero, etc., ouais. Ce sont des films dont on ne parlait pas il y a encore 20 ans.
Ouais.
On ne parlait pas parce que justement, ce n'était pas encore ce qu'on appelle avec un mot prout-prout, mais il faut utiliser un objet de science. C'était pas encore un objet de science. Il a fallu justement que des mômes qui voient des films, je sais pas, comme justement The Live ou Invasion Los Angeles ou New York 1997, cette fois de Carpenter, eh bien, ils voient ça, ils ont 12 ans, et ensuite ils deviennent universitaires, ils en ont 30. Donc il y a à la fois le fait que les universitaires s'aperçoivent que le cinéma dit quelque chose qu'on peut travailler comme objet d'art,
ouais.
Et puis le fait que les universitaires vieillissent à partir des années 70 et se disent, mais pourquoi je ne me tournerais pas sur les films de Sabre? Pourquoi je n'irais pas voir ce que c'est qu'un giallo? Pourquoi je n'irais pas voir sur les films de serial killer? Pourquoi je ne m'intéresserais pas à ça?
Ouais. Non, très bien. Et moi, j'avoue que c'est une partie qui m'a pas mal intéressé dans mes études également.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire d'utiliser le cinéma comme une très bonne porte d'entrée pour autre chose, par exemple. Du coup, cette publication là dont on a parlé, dedans, tu vas revenir sur le personnage de Sherlock Holmes, mais pas seulement sur lui, c'est pour parler également d'autre chose, on l'a compris.
Ouais. En fait, on peut dire il y a des gens qui sont passionnés par certains sujets, par certains objets, et puis d'autres qui ce sont des, on prend des objets d'études, qui sont des prétextes. Ici, souvent, chez moi en tout cas, c'est ça, ce sont des prétextes. Donc ici, Sherlock Holmes, comme ça a été pour Alien ou d'autres sujets, je m'intéressais à une notion qui est le divertissement et la rationalisation dans le divertissement. C'est-à-dire que je cherchais des personnages, des symboles, des représentations collectives qui étaient importantes. Donc importantes, ça veut dire qu'ils font du business. Enfin, ils font du chiffre.
Ils sont vus.
Ah ouais, ils sont vus. Ah oui. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est de m'intéresser aussi. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre aussi les publics, ouais. De comprendre le personnage comme représentation collective et comme représentation d'un artiste. Parce que l'artiste, évidemment, il est tout seul quand il est auteur ou il est avec une armée quand il est quand il fait des séries ou quand il fait un film. Mmh. Mais bref. Donc, non seulement à la production de l'objet, la production de Sherlock Holmes, à la production d'Alien, je prends l'un ou l'autre. Ouais. Et puis ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à la consommation. Mmh. Et de voir comment ça se passe aussi à ce qu'on appelle la consommation ou la réception. On parle de sociologie de la réception. Bref. Et donc, Sherlock Holmes, c'était, oui, pour le dire un peu brutalement, mais c'était vraiment un prétexte pour essayer de comprendre la rationalisation du monde et la rationalisation dans le divertissement. C'est-à-dire comment on s'amuse aujourd'hui en Occident et comment on s'amuse avec son cerveau. Comment on s'amuse non plus à la chasse à cours ou simplement au sport des arts martiaux, mais comment on s'amuse avec son cerveau. C'est-à-dire la place des mathématiques, la place de la science, la place de la raison. Ça m'importe, mais exactement comme toi, quand tu fais tes cours d'histoire du cinéma, ouais. C'est qu'en fait, ce sont des thèmes qui reviennent. Et si ça revient à ce point-là, là, moi, j'y vois le docteur Chivago. Là, j'y vois justement quelque chose qui est de l'ordre. Donc, si c'est un éternel retour d'un même thème, on appelle ça un mi-thème, hein, c'est pas de moi, ouais. Donc on appelle ça un mi-thème ou une représentation collective récurrente, et là, tu te dis, ah, la société parle d'elle-même dans ce machin-là. Quand je dis ce machin-là, ça peut être Alien, ça peut être la robotique, ça peut être ici Sherlock Holmes.
Mmh. Oui,
la société,
oui.
Voilà, la société parle d'elle-même, elle essaie de se dire quelque chose à elle-même. Mmh. Tu vois ? Et évidemment, elle se dit quelque chose à elle-même quand ça marche.
Bien sûr.
Parce que si une œuvre d'art ne marche pas, que ce soit bien ou mal, hein, moi, on s'en fiche, il n'y a pas de jugement de valeur. Mmh. Si c'est, voilà, nous, ce qui va m'intéresser, c'est quand même que ça marche d'un point de vue du business. Quand je dis le business, ça veut dire que ça fait un certain budget dans la production et il y a un certain bénéfice dans la consommation.
Ouais, tout à fait. Puis alors, du coup, tu dis que c'est la société qui parle d'elle-même. Et en plus, ce qui est intéressant avec un personnage comme Sherlock Holmes, par exemple, c'est qu'il existe au cinéma depuis le début du cinéma. Et donc, la société va parler d'elle-même à des époques différentes. Ce qui en fait finalement un objet multiple d'études. Et tu as bien fait de faire la distinction objet-sujet, hein, puisque l'objet, c'est le sujet de la conversation en philo, normalement. D'où objectif. Peut-être, avant de se lancer vraiment là-dedans, un petit rappel rapide pour un rappel historique sur qui est Sherlock Holmes, puisqu'il y a peut-être des gens qui connaissent un peu moins bien. Donc Sherlock Holmes, c'est un personnage de fiction, de littérature, qui apparaît dans des nouvelles et des romans qui ont tous été écrits, en tout cas pour la partie vraiment officielle, par Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle qui est donc britannique, comme son nom l'indique finalement, et qui est né en 1859 et décédé en 1930, et qui a beaucoup écrit, et très notamment Sherlock Holmes, et qui assez rapidement s'est trouvé un peu, d'après son propre aveu d'ailleurs, un peu prisonnier de son personnage. C'est-à-dire, ce personnage, il avait eu l'impression d'en avoir fait le tour assez rapidement, il a essayé de le faire disparaître, il l'a fait disparaître, et ça n'a pas plu. Et donc, ça, c'est assez connu, hein, mais la vindicte populaire a réussi à le décider, et puis l'argent probablement, à le faire revenir. Mais ce qui fait que cette disparition et ce retour est un élément important finalement dans le mythe aussi de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes qui disparaît aux chutes de Reichenbach avec son pire ennemi, le professeur Moriarty, et donc qui décède pour de vrai, mais qui finalement va revenir après. Donc, ce n'est pas tellement dévoilé ou divulgué, gâché son histoire, puisque ça fait partie des mythes, comme finalement les travaux d'Hercule.
Alors, justement, puisqu'on est sur Prune universitaire, il y a de nombreuses personnes qui savent, et puis d'autres, on va simplement faire un rappel, mais on parle de mythes, c'est pas de moi non plus, on parle de mythes à partir du moment où il y a du retour, comme tu l'as dit. Mmh. Alors, on sera avec Nietzsche quand on dit éternel retour, mais c'est pas lui qui développe ça. On sera mythe surtout ce qu'on appelle la variation.
Oui.
C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que depuis le début, mais c'est ce qui intéresse évidemment les anthropologues du cinéma ou les sociologues du cinéma ou les historiens du cinéma, c'est que si quelque chose tient au sens de la production et de la consommation, je répète consommation, ça veut dire que les gens par exemple s'interdisent ou interdisent à Conan Doyle de faire mourir le personnage. Ouais. Alors là on a quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait les gens, formule très, très floue, hein, mais c'est fait exprès, les gens, en fait, interdisent à Conan Doyle de laisser mourir son personnage parce qu'ils en ont besoin. Mm. C'est-à-dire qu'ils disent, non, vous n'avez pas le droit de nous tuer, de nous tuer notre personnage, parce que ce n'est pas simplement à vous maintenant, auteur tout seul dans sa piole ou dans une bibliothèque. Non, c'est un personnage qui parle de notre société, c'est un personnage qui parle de notre vie, et c'est un personnage qui nous fait du bien. Ouais. Jamais oublier, évidemment, le côté, cet aspect de plaisir. Tout à l'heure, je disais rationalisation du monde, ouais. Mais rationalisation du monde dans le divertissement. C'est-à-dire qu'en fait, on prend du plaisir. Et certaines époques sont des époques où on demande justement à avoir plus de plaisir qu'à d'autres moments.
Oui, oui.
Voilà. Donc en anthropologie, ethno-anthropologie, on dit oui que le mythe, mythe et mythème, je disais tout à l'heure, hein, c'est Claude Lévi-Strauss, puis d'autres. Mais c'est, comme tu l'as dit, le retour, un retour éternel. Mmh. Et puis surtout, ce rapport de variation, un peu comme le petit chaperon rouge.
Oui. Oui. Et...
Nous raclons la gorge à tous les deux. Hein.
Allons-y.
J'espère que tu ne seras pas malade après.
Non, il y a une distance et une vitre entre nous. Ça devrait
ne fume aller. Pas trop de cigares.
Je vais tâcher. Alors, puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que oui, voilà, ce personnage est rentré dans une sorte de mythologie moderne du vivant, donc de son auteur. Ce que ne pouvait pas, a priori, en dire Homère ou Ésope à leur époque.
Oui, c'est intéressant. Enfin, oui, parce qu'ils savent quand même ils savent qu'ils écrivent quand même de la mythologie.
Ouais.
Oui. Ils savent qu'ils sont dans la mythologie. C'est ça qui est chouette. Hein. Dans les travaux de ce que j'appelle pop mythologie, quand on travaille la pop mythologie.
Oui, alors ça, c'est une formule qui est de toi. Pour...
Alors, je le crois, oui. elle sera publiée, elle a déjà été publiée à droite à gauche.
Mais c'est intéressant.
Mais là, d'un point de vue universitaire, elle le sera dans ce travail-là sur l'esprit de la découverte. Bref. Et donc, en fait, dans les travaux de pop mythologie, les auteurs ne savent pas s'ils vont entrer dans ce rapport de mythologie.
Ouais.
Quoique, parce que depuis justement la guerre des étoiles et puis d'autres travaux, évidemment, les universitaires, ça coquine au cinéma ou le cinéma, ça coquine des universitaires. C'est-à-dire qu'on va lire des universitaires pour savoir exactement comment ça fonctionne. Mmh. Quand on apprend à faire des scénarii à Hollywood ou dans d'autres grandes écoles, évidemment, il y a des moments donnés où tu as des cours d'anthropologie. T'as des cours de sociologie de la réception. Donc, tu as un truc dont je viens de parler déjà dans le divertissement, c'était la rationalisation. Donc, ouais. T'as une rationalisation du plaisir, mais t'as une rationalisation du plaisir à la consommation, puisqu'on s'intéresse à des personnages qui rationalisent,
ouais.
Donc qui utilisent la raison pour prendre du plaisir dans le monde. Et puis, à la production, comme par hasard, mais c'est normal, c'est l'Occident, eh bien là, tu as vraiment la présence d'universités où tu as des cours... qui t'explique, un petit peu comme dirait les Goncourt, dès 1800, les frères Goncourt, qui t'explique ça dans leur journal dès 1856, que Edgar Allan Poe avait inventé le roman par A plus B.
Mm-hmm.
Et eux, ils ont une petite note, mais un jour je suis tombé là-dessus, j'ai écrit un peu là-dessus, et une petite note où ils disent, voilà, Edgar Allan Poe a écrit le premier roman par A plus B, en 1856. Et Doyle arrive un peu plus tard, mais en fait, on a tout ce cheminement qui vient en fait de la fin du 19e siècle et qui va attaquer la première partie du 20e siècle et qui est... rationalisons le monde, il faut en faire quelque chose où la présence de la raison doit être première et évidente.
Mmh.
Et évidemment, c'est aussi la naissance de quoi ? De la science-fiction, avec nos amis Verne et Wells un peu plus tard.
Et tu disais, ouais, le roman par A plus B, dans le sens de formule, finalement.
Oui,
un peu, quoi.
Oui, c'est la formule, et puis la formule, oui. Alors la formule, j'allais dire l'aphorisme, la phrase un peu sèche, et puis où on tombe sur la vérité tout d'un coup. C'est-à-dire, on pourrait retrouver là les Grecs ou une formule comme Eureka.
Ouais.
Eureka, c'est de la plus B. Mais en fait, ce que disent les Goncourt dans ce petit texte de 1856, c'est que les auteurs ne vont... En tout cas, c'est ce qui se présente. Parce qu'eux, ils sont également amis avec toute la coterie parisienne. Ils connaissent tout le monde. Hein.
Ouais.
Mais... Là, ils s'aperçoivent que les Anglo-Saxons sont en train de produire quelque chose d'autre.
Ouais.
C'est ça qui les intéresse. Tu vois,
oui,
je parlais de,
oui.
Je parlais de l'Occident, mais ici, on peut différencier en fait les protestants. Je peux me permettre d'utiliser ça. on a les protestants et puis on a le monde un peu catholique. Et donc les protestants sont déjà en train de produire quelque chose. Alors quand je dis protestants, j'entends les WASP, hein, White Anglo-Saxon Protestant, donc aux États-Unis avec justement Poe. Et puis,
Melville.
Voilà, c'est ça. Enfin, d'autres, beaucoup d'autres auteurs. Et puis Doyle, qui lui tourne autour. Et puis, comme je le disais, on arrivera à quelqu'un qui nous intéresse, nous, Nantais, donc Verne. Verne, mais qui, lui, est dans la prospective, alors que Wells, lui, est dans la science-fiction.
Ouais. On va faire une pause ici, pour que tu puisses déjà souffler un petit peu. Et puis, donc on va écouter des musiques tirées de différentes adaptations de Sherlock Holmes sur petit ou grand écran. Et je vous propose qu'on débute avec le thème principal de Sherlock Holmes, Jeu d'ombre, qui était donc le deuxième film avec Jude Law et Robert Downey Jr. Et c'est Hans Zimmer. Donc on s'écoute ça, c'est le thème principal. Et à tout de suite dans 100 ans de cinéma avec David Morin-Hullman.
Temps de cinéma et des poussières avec notre invité.
Et ah oui, avec notre invité David Morin-Hullmann dans 100 ans de cinéma. On reprend donc alors cette thématique Sherlock et on vient d'écouter, donc, je vous l'ai dit, une musique qui est composée par Hans Zimmer. C'était sur la bande originale du deuxième Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Et on parlait en coulisses de quand même de l'inspiration pour ce morceau, en tout cas assez évident, de Morricone chez Zimmer, qu'on retrouve absolument partout maintenant, Zimmer en tout cas.
Alors, on pourrait dire qu'on retrouve partout à la fois Morricone,
oui,
et puis Zimmer. Et c'est vrai que la musique de film a pris aussi... C'est pareil, hein, on peut parler de le terme un peu universitaire, c'est légitimation.
Ouais.
En tout cas, en sociologie. Son synonyme peut être valorisation. Donc, c'est un processus. Hein, légitimation, c'est un processus. Et puis, ouais, c'est ça. Et ça nous intéresse parce que on en parlait, parce que la musique est un second scénario. Ça permet d'emmener ça chez soi. Il y a des collectionneurs, d'ailleurs en sociologie de la réception du cinéma et sociologie des collections, la sociologie n'arrive pas à savoir qui sont les collectionneurs de musique de films. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à mettre les gens dans des cases, ce qui est plus ou moins bien, on n'a pas tergiversé là-dessus. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens qui aiment la musique de cinéma, ils ne savent pas, les sociologues, alors à moins qu'on me présente un dernier ouvrage, mais je n'ai pas trouvé de choses sur pourquoi. Alors, si on réfléchit un tout petit peu, sans forcément faire de sociologie sauvage ou d'histoire sauvage, mais c'est parce qu'on a pris du plaisir.
Ouais.
On revient à plaisir, on a pris du plaisir avec... John Carpenter a écouté la musique de... Alors, il y a un double plaisir, hein, par exemple, dans The Thing. Je me permets de te prendre quelques secondes là-dessus.
Bah, vas-y.
Mais comme tu sais bien, j'aime bien les digressions. Mais...
Moi aussi.
Voilà, donc là, on est en plein dedans. Mais bon. Bref, dans The Thing, ce qui est très, très bon, c'est que nous avons en fait Ennio Morricone qui joue du John Carpenter. Ouais. Et on se dit, waouh, là, il y a une espèce de confiance... Il y a un mimétisme, confiance, mimétisme, liberté, qui donne un morceau qui je trouve assez, assez terrible, enfin en tout cas minimaliste. Mmh. Alors bon, c'est pas la cinquième de Beethoven, mais il n'empêche qu'il y a vraiment un travail qui parle justement de notre époque, c'est-à-dire que deux personnes qui se rencontrent, une qui lui dit « écoute, cette fois j'ai un petit peu d'argent », hein, c'est John Carpenter qui n'a jamais eu beaucoup d'argent. Mm. Il dit, cette fois, j'ai un peu d'argent pour The Thing. Je te signe, mais il faut que tu fasses une musique comme moi.
Ouais.
Voilà, ça, c'est chouette, quoi. C'est chouette.
Ouais. Bah, c'est chouette. Puis Morricone acceptait ce genre de choses, hein, puisqu'il a fait 400 compositions, dont certaines pendant qu'il dormait, visiblement. Mais...
comme tu dis, je me permets encore une autre anecdote. J'ai envie d'en parler à la radio avec toi. Mm. C'est une chose que je dis toujours à mon fils. Et il va écouter cette émission. Donc, du coup, c'est dédié. Mais... Kurt Russell. Donc, on est toujours John Carpenter, oui. Ennio Morricone. Tu vas voir, on va tomber sur Clint Eastwood. Hop, ça y est, j'ai réussi à le placer.
Très bien.
J'avais dit qu'il fallait que je place Eastwood. Et en fait, quand John Carpenter lui demande de jouer Snake Plissken dans Escape from LA, Escape from LA, mais quand tu lui demandes de faire Escape from New York, New York 1997, ils discutent et tout d'un coup, l'acteur, donc Kurt Russell, lui dit... Est-ce que je pourrais jouer comme Clint Eastwood? Tu fais ce que tu veux si ça tient la route.
Ouais.
Et c'est pour ça en fait qu'il part comme ça.
Ouais.
Dans le rôle en anglais évidemment. Call me Snake, call me Plissken. Et donc ça m'a toujours amusé que même ce personnage-là utilise encore Eastwood, alors qu'évidemment Eastwood est caché. Il est caché par le jeu. J'arrête après. Hein.
Non.
Il est caché par le jeu et il est aussi caché par Lee Van Cleef.
Bah oui.
Car il y a Lee Van Cleef également dans ce film. Je trouve ça, pour l'histoire du cinéma et des poussières, hein, ouais. 100 ans de cinéma et des poussières.
Oui, et des poussières.
Je pense que c'est bien de parler de ces petites poussières, si tu me...
Exactement, tout est lié, de toute façon. Voilà. Bah, surtout de la part de réalisateurs fans, en fait. C'est des gens qui accumulent. On a parlé de Morricone, on peut parler de Tarantino, qui lui-même l'a fait travailler, quoi. Après l'avoir beaucoup cité, il l'a finalement fait bosser, quoi. Mais pour revenir à notre Sherlock Holmes, et donc à ton article aussi, là, alors pour un peu plus préciser, tu as dit de quoi il était question à peu près, mais on peut revenir justement sur cette idée de rationalisation par le biais de Sherlock Holmes comme angle d'attaque, cette rationalisation du monde par la fiction, par les histoires qu'on se raconte.
Oui, donc c'était pour remettre un peu le contexte, donner le contexte pour les éditeurs, tes éditeurs, tes auditeurs, tiens, tu vois, c'est tout, tes éditeurs.
Les éditeurs, on peut les citer,
ouais,
par
je
contre.
Peux les citer. Oui, bah, c'est les presses universitaires de Rennes.
Voilà.
Comme tu dis, je suis un peu obsédé parce que ça n'a pas été facile. Enfin bref.
Ouais.
Et donc, et c'était à Strasbourg. C'était un colloque. Donc, on est vraiment un truc. C'était un raout à la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Et ça sera publié aux presses universitaires de Rennes.
Okay.
Bref, c'était un colloque, oui, sur l'esprit de la découverte et de la science, on en a parlé. Et puis, ce sont essentiellement des historiens et des géographes. Et il y a une amie qui me dit qu'il voudrait quelqu'un qui soit un peu capable de présenter ça de façon pas plus large que l'histoire et la géographie, mais une vision un peu anthropologique.
Mmh.
Alors, je te dis, d'un point de vue des diplômes, puisqu'on est sur une radio universitaire et que je suis aussi un peu carré, moi, je ne suis pas anthropologue. Je fais une anthropologie de la modernité.
Mmh.
Donc j'essaie de comprendre en fait ce que c'est que la modernité et s'il y a des ruptures entre le passé, ce qu'on appelle l'ancien régime, ce qu'on appelle les sociétés féodales, etc. Et aujourd'hui, avec une société typiquement capitaliste, productiviste, bon bref.
Mmh.
Alors, bon, voilà, c'est ça. Mmh. Et eux, en fait, ils voulaient une approche, je dirais, socio-philosophique ou socio-historique. Et je leur ai vendu, justement, l'approche, une approche socio-philosophique, socio-historique, du personnage Sherlock Holmes, comme on vient de le dire tout à l'heure, autour d'un mythème, d'une variation de quelque chose qui revient et qui intéresse la société, qui l'intéresse à la production, qui l'intéresse à la distribution et qui l'intéresse à la consommation.
Mmh.
Alors, à la distribution, c'est quoi? Puisqu'on a un peu parlé de la production et de la consommation. La distribution, c'est par exemple le fait qu'il y ait des pièces de théâtre, enfin d'abord qu'on vende des bouquins,
ouais.
Que ça ramène des sous hein, à Doyle et aux éditeurs. Donc là, il y a quelque chose qui est écrit, ça marche. Ensuite, encore dans la distribution, on en fait des séries. Tu rappelais qu'on en a, ça c'est très rapide quoi, on a fait des séries de Doyle à partir des années 40.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Oui, oui.
Tu disais, on en parlait.
Celle de 39, enfin qui commence en 39 avec Basil Rathbone et Nigel Bruce, et qui est intéressant à plusieurs aspects parce que c'est contemporain. Ils ont adapté le personnage donc dans les fins des années 30, début 40, c'est-à-dire Seconde Guerre mondiale, et donc on a le plaisir de voir Sherlock Holmes défoncer des nazis.
Voilà, comme Superman avait été inventé, développé par des gens justement qui savaient qu'il fallait tuer le régime nazi. Bref, en tout cas, ce sont des super-héros, que ce soit dans un cas comme dans l'autre,
ouais.
Des super-héros par la force ou des super-héros. Superman est un peu complexe parce que lui, il est à moitié divin. Ici, c'est Sherlock Holmes, lui, il est divin. Je peux utiliser ce mot-là avec des guillemets cette fois, mais il est divin par sa raison.
Ouais.
La science de la déduction, c'est quelque chose qui est un super pouvoir. Et le super pouvoir, c'est ce qui nous permet aussi de sortir de la médiocrité ou de la quotidienneté. Je fais exprès d'utiliser le terme de quotidienneté. Et ces gens me demandent de faire une analyse socio-philosophique, socio-historique de ce personnage. Et j'avais déjà travaillé en fait sur House, sur la série Dr House.
Oui.
Donc j'avais approché en fait Sherlock Holmes par Dr House et je m'étais aperçu évidemment que House était un mythème, enfin plutôt un éternel retour de quoi ? Bah de Sherlock Holmes. Et je me disais, tiens, c'est marrant, un jour ou l'autre. Alors j'ai dû publier ça, on peut le trouver hein, si ça intéresse quelqu'un. On peut trouver ça gratuitement sur le net. Ça s'appelle Dr Heim and Mr House. Et donc, j'ai dû publier ça en 2011. C'était une socio-philosophie de Dr House. Donc, une socio-philosophie, ça veut dire qu'il y a des termes, il y a des concepts philosophiques qui sont utilisés par ma petite personne. Et puis, il y a une analyse sociologique, c'est-à-dire que je vais voir les producteurs. J'interviewe si je peux, je lis si j'ai. Et puis, évidemment, je vais aussi voir ce qu'on appelle le public.
D'accord.
Voilà. Et donc ça, c'était à House, et je suis arrivé à 10 ans plus tard sur Sherlock Holmes, parce que je voyais qu'il y avait cet éternel retour, quoi, cette variation, et que là, ils préparent le troisième film où ils vont. Je crois qu'il est même, terminé.
Non, hélas. C'est sur les starting blocks. Ils ont un réalisateur qui sera plus Guy Ritchie, qui sera Dexter Fletcher.
Oui, c'est ça. Alors moi, j'avais ça dans mon.
Mais ça, en fait, avec la pandémie, ça a été repoussé. On n'a pas la date, mais ils essayent de le faire le plus vite possible puisque tout est prêt, les gens sont partants. Donc
voilà.
Ça pourrait être pour 2023.
Voilà, c'est ça. Donc ça sera après le papier, c'est bien. Et j'avais l'autre réalisateur. Et bref, en tout cas, donc cette présence. Et je te dis, la présence, c'est comme les super-héros. ça m'intéresse parce que j'y vois en philosophe et en sociologue parfois une inversion, ce qu'on appelle l'image renversée, ou une image inversée de ce que nous sommes. C'est-à-dire, est-ce que la fiction représente le réel, la réalité, ou est-ce que la fiction n'est là que pour elle-même ? Mmh. Et donc ça, c'est un travail que font les sociologues de l'art, les sociologues de tous les sociologues, enfin les sociologues de l'art et les sociologues de la réception du cinéma, par exemple. Ils se posent toujours la question, est-ce que cette œuvre est du pur divertissement, ou est-ce qu'elle essaie de dire quelque chose en plus ? Donc que ce soit Sherlock Holmes ou James Bond, comme aujourd'hui, on sait très bien que James Bond, ça n'a jamais été autre chose que du divertissement, sauf le rapport à la géopolitique. Mmh. Et il y a en revanche, il y a des travaux qui sont faits par des féministes américaines ou d'aujourd'hui qui disent mais si, il va falloir travailler parce qu'en fait on est bien dans du divertissement quoi. Ouais. On est vraiment dans entertainment. Ça me rappelle, permets-moi, justement quand j'ai entendu Elvis au tout début. Évidemment, je connais ton émission, mais en écoutant Elvis dans ce casque, je me suis dit tiens c'est marrant. Elvis, c'est le deuxième plus gros produit des années 50, le premier produit culturel, hein, c'est un produit ce qu'on appelle en sociologie un produit culturel, le premier produit de l'entertainment hollywoodien et américain, c'est Dean Martin et Jerry Lewis, de 47 à 57, et puis il y a Elvis. Et en fait, Elvis, on lui pose une question un jour sur ce qu'il pense de la guerre du Vietnam.
Oui.
Et il dit, mais j'en ai rien à cirer. Enfin, j'ai pas à vous répondre, moi.
Oui, c'est pas mes affaires.
C'est pas mes affaires, ouais. Quoi. Moi, je suis ici pour l'entertainment. Mm. C'est quelque chose qui... Tu vois, ça, on retombe sur Eastwood. Eastwood le dit souvent. Ouais. Eastwood, il dit, je fais que de l'entertainment. Alors, on peut apprécier... Enfin, oui, il dit souvent, moi, je suis simplement réalisateur. Mes rôles, c'est ceci, cela. Je crois qu'il ne ment pas.
Oui.
Je crois qu'il ne ment pas. Je crois qu'il est. C'est pas une forme de. C'est pas de la naïveté. C'est pas de l'innocence. Mais en fait, il fait vraiment du business, comme Charles Bronson faisait du business. Et il disait voilà, je fais un film et j'essaie de faire un peu d'argent pour moi, évidemment, pour la production et puis de passer à autre chose. Mm-hmm. Et nous avons un côté les intellectuels ou les universitaires. Ou même les Français, en général, on projette encore. C'est le test de Rorschach.
Ouais, ouais.
Il y a vraiment ce regard-là. Qui peut poser problème parce que on peut voir trop de choses dans certains films, ou trop de choses dans certaines productions. Mais ça, c'est, il me semble, hein, que c'est notre regard peut-être de Français, où on projette un peu trop, ou de Californien quand on projette un peu trop.
Mais alors, du coup, dans cette évocation de plusieurs personnages là, qui pourraient sembler comparables, ouais. Toi, tu fais une comparaison, toi, tu fais une distinction entre James Bond ou Tintin et Sherlock Holmes.
Alors oui, très 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 bon. Oui, évidemment, donc pour parler uniquement de Sherlock Holmes, ce qui m'intéressait quand j'ai commencé ce papier, c'était de voir, comme je te disais, c'était de voir son éternel retour, que ce soit lui ou d'autres ou sous d'autres formes, donc Dr House,
ouais.
Avec le docteur... Son acolyte.
Watson, oui.
Voilà, Watson.
Oui, puisqu'il boite, il a une carte.
Exactement.
Mais il a le pouvoir de déduction de
c'est ça.
Sherlock.
Et puis pour House, ou d'autres séries américaines, même je pense à Dr. Wilson dans la série d'House, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? De quoi parle-t-il ? Mm-hmm. De quoi parle-t-il ? Est-ce que les gens... Que voient les gens ? Voilà, en fait, on revient toujours à la question du sociologue et pas du philosophe. C'est bon, ok. On peut balancer des gros concepts comme rationalisation du monde et puis, je te disais, désenchantement. C'est-à-dire que la raison humaine, R majuscule, elle fait une chose, c'est-à-dire qu'elle rationalise la vie. Elle connaît mieux la chirurgie, elle connaît mieux le corps humain, elle connaît mieux l'espace, elle connaît mieux le monde dans sa totalité. Alors, dans sa totalité, c'est difficile ce mot-là, mais je l'ai quand même dit. Elle connaît mieux ça. Et puis en même temps, d'un autre côté, elle dit, bah oui, mais justement, si plus je connais la totalité, et plus en fait je désenchante la totalité. Et qu'est-ce qui me reste ? Il me reste justement ce que j'appelle moi le jouissement. Mmh. Alors le jouissement, c'est une association entre la jouissance du corps et la jouissance de l'esprit. Et en fait, dans ces séries et dans ces films, on est tout le temps dans le jouissement. Et c'est pour ça qu'on y voit autant de joie. Donc les personnages qui sont joués par Jude Law et par Iron Man, j'allais dire.
Et pas Iron Man, voilà. Lui-même.
Mais voilà, mais on est toujours sur ce rapport de jouissement.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on désenchante peut-être le monde à l'expliquer, mais c'est encore un terme prout-prout, mais bon, on est sur prune. Donc, c'est une dialectique. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement qui se... Ou yin-yang pour les gens qui aimeraient bien ça, mais je préfère le terme de dialectique. C'est une tension entre je désenchante, je réenchante. Je désenchante, je réenchante. Désenchanté, réenchanté, c'est justement ce que fait la fiction et ce que fait la raison qui, elle, te montre en fait comment est fait le corps humain, comment est fait l'univers. Et donc, pour certains, bah, c'est ôter le mystère, hein, c'est le rapport du mystère, le rapport mystérieux, peut-être un rapport à la divinité, et puis aux divinités. Et puis, de l'autre côté, c'est réenchanter parce que c'est s'apercevoir de la complexité humaine, s'apercevoir de la complexité de l'environnement et s'apercevoir de la complexité des fictions où là, nous, avec nos digressions, ce qui nous intéresse, c'est de nous apercevoir qu'on a le même genre de... Le même genre, je pense que c'est vraiment le terme. On a le même genre de culture cinématographique et qu'on s'amuse avec ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend du plaisir.
Ouais. Si Podade m'était compté, j'y prendrais un plaisir immense.
Voilà, c'est ça, exactement.
Le monde est vieux, etc., mais il faut toujours l'enchanter. Enfin bon, bref, Jean de La Fontaine, en tout cas.
Oui, oui.
Courte pause également encore, on va donc écouter un extrait de... Enfin non, on va écouter le début en tout cas, parce que c'est très long, du générique de Sherlock, la série Sherlock, avec Sherlock. Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, une série BBC. À tout de suite dans son cinéma avec David Morin-Hullman, notre invité.
Temps de cinéma et des poussières est aussi en podcast sur prune.net.
Bienvenue à bord de la ligne.
Ouais. on s'amuse avec les jingles. De retour donc dans 100 ans de cinéma et des poussières avec notre invité David Morin-Hullman, qui est venu nous parler de beaucoup de choses différentes, mais aussi de Sherlock Holmes. Et l'un des angles de cette publication qui va avoir lieu fin de l'année ou début d'année prochaine, c'était donc sur colloque à la base, hein, sur l'esprit de la découverte. Et toi, donc, tu t'es intéressé à la rationalisation du monde. Alors, petite question, j'ai compris que pour le spectateur, le consommateur d'une certaine manière, ouais. Cette rationalisation, c'est par le biais donc de la fiction et de certains personnages qui reviennent, ça leur permet justement de rationaliser tout en l'enchantant, ce monde. Mais ce qui est intéressant plus avec ce personnage de Sherlock en particulier, c'est que lui-même rationalise le monde autour de lui, si je ne dis pas de bêtises. Donc...
oui, c'est ça. Ce qui est intéressant encore, en fait, il y a des moments donnés, il y a... J'appelle cela parfois avec mes amis, l'épistémologie Solers, ça vient de Solers, mais pour des raisons... enfin bref, l'épistémologie Solers ou l'épistémologie par la lorgnette. C'est-à-dire qu'on peut comprendre des choses par des toutes petites informations. Et Bénédicte, il y a une chose amusante, c'est que Bénédicte est à la fois Sherlock, et puis ensuite il va devenir un personnage, un super-héros, un Marvel.
Docteur Strange.
Exactement, Docteur Strange. Comme son nom l'indique... Docteur Strange, et comme ses capacités l'indiquent, c'est encore le cerveau. Ici, on a une protubérance. Je fais exprès, hein, ouais. Évidemment. C'est, le cerveau est protubérant. C'est l'Occident, ça. L'Occident, c'est la protubérance du cerveau avec Sherlock Holmes. C'est une protubérance.
Presque un fardeau, même.
Ah ben, évidemment, évidemment, puisque, en fait, depuis Doyle jusqu'à aujourd'hui, d'un point de vue de ce qu'on a dit, les mi-thèmes ou les variations du thème de Sherlock Holmes, jusqu'au héros Doctor Strange, ouais. Je fais exprès, puisqu'en fait, il est joué par Benedict, ouais. C'est justement la maîtrise du monde par le cerveau. Mais ce qui est toujours chouette, c'est qu'il y a la folie. C'est-à-dire que la fiction est toujours autocritique, ou la fiction est toujours critique de cette raison R majuscule. La fiction vient, en tout cas, moi, c'est une des conclusions. J'ai plusieurs conclusions dans cet article universitaire, mais une des conclusions, c'est qu'on a encore une dialectique. Alors, une dialectique, ça veut dire qu'il y a deux mouvements en même temps qui se rongent les uns les autres, deux mouvements en même temps qui se complètent l'un l'autre. Très bien. Mais il y a une autocritique ou une critique. Et quelle est-elle? Je répète, c'est une forme de romantisme. Ou c'est une forme... Alors, le romantisme et la raison, ça se bat depuis, justement, quand on fait un peu l'histoire du romantisme, où les gens qui connaissent la poésie, puis ceux qui ne connaissent pas non plus, évidemment, ils savent que le romantisme est une critique de la science. Oui. Quand on voit toute la peinture ou la littérature, c'est une critique de la science.
Et ce n'est pas pour rien que ça apparaît au début du 19e.
Exactement. Mais en fait, on y laisse la folie. Et ce qui m'intéresse dans Doctor Strange, joué par Benedict, mais je n'écrirai pas de texte là-dessus, mais ce qui m'intéresse quand même chez Benedict, c'est qu'il joue à la fois...
Cumberbatch, je ouais, précise.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est qu'il a, cet aspect donc, de gros cerveau, je fais exprès, en protubérance, ouais. Donc quelque chose d'énorme, de monstrueux, de totalement fou, et qui n'est en fait que le produit de la raison absolutisée. C'est-à-dire que si mon cerveau est vraiment l'absolu, il va pouvoir déplacer des montagnes. Ce que fait évidemment le Docteur Strange, et maintenant je reviens à Sherlock Holmes, ce que fait le cerveau de Sherlock Holmes. C'est-à-dire que si vous avez un cerveau absolu, donc ici un cerveau absolu, c'est un fantasme. Le cerveau absolu, c'est ce que je disais, cerveau absolu, c'est comme le mot totalité, ce sont des choses qui n'existent pas. Mais ce sont des choses en fait qui fascinent l'Occident, parce que l'Occident, depuis l'Ancien Testament, Descartes ou le positivisme, c'est la maîtrise du monde, la maîtrise des hommes, ce qu'on peut appeler la maîtrise du monde, et c'est le mot monde, je l'ouvre en deux, il y a la maîtrise de la nature et la maîtrise des hommes. Évidemment, dans la maîtrise des hommes, c'est à la fois très grec, on maîtrise les hommes au sens d'un management, et on maîtrise les hommes au sens d'une politique qui est la meilleure, donc jusqu'à la démocratie, qui serait donc ici, pour l'Angleterre et pour l'Occident, une maîtrise aussi des flux de production, de distribution, de consommation. Comme je te disais, j'ai réussi à placer de l'économie politique dans mon propos avec toi.
Oui, très bien. Me venait une autre réflexion. Oui, ce super pouvoir de déduction, il est notamment mis en scène, je pense, à cette époque des super-héros, et notamment dans un film où il est joué par un autre super-héros, donc Iron Man. Donc dans les films de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr., on a vraiment une représentation donc, de cette capacité de déduction par rapport à des indices. On en fait un super pouvoir, même dans sa mise en scène. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe dans la tête de Robert Downey Jr., c'est plutôt bien fait. Et ensuite, au ralenti d'ailleurs, et ensuite on voit l'action se dérouler en temps réel, voire limite un peu accélérée, mais on la comprend puisqu'on est passé par tout ce cheminement qui est donc de l'ordre du super-pouvoir, hein, tel que c'est mis en scène, et qui s'accompagne bien entendu toujours d'une folie, puisque Sherlock a besoin de Watson pour appréhender le monde, mine de rien. Enfin, je crois.
Oui, c'est... On était en train de se dire qu'il y avait ce mot-là, cette dialectique, cette mise en tension en fait, entre deux personnages. La nécessité des deux personnages, c'est un peu comme on trouve chez Platon, avec Socrate qui pose des questions et qui répond. C'est la nécessité d'avoir en fait, un ennemi, un adversaire ou un collègue ou un ami, en tout cas la nécessité d'avoir quelqu'un que tu respectes un minimum pour que tu puisses sortir les choses de toi-même. On appelle ça la maïeutique. On est sur Prune, donc on appelle ça la maïeutique, mais en fait c'est simplement s'enseigner des choses à soi-même. Et puis on pourrait dire aussi, c'est simplement le fait que si le cerveau humain est égal, c'est-à-dire que tu sois du 13e siècle, du 8e siècle, du 21e siècle, ou même il y a 10 000 ans, il y a quelque chose de l'ordre d'une plasticité du cerveau humain qui nous permet justement de comprendre les choses et de les comprendre de mieux en mieux. Donc si on allait chercher un enfant pardon, si on allait chercher un enfant au 8e siècle, où il y a moins qu'à 15 000 ans, et on le ramène aujourd'hui ici, évidemment un enfant, hein, pas, on n'est pas chez François Truffaut, un enfant sauvage, mais un ouais. enfant, mmh. eh bien on pourrait lui apprendre autant de choses qu'à un enfant de 1972 ou de 2022. Mmh. Bref, en tout cas, oui, tu dis ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as dit avec... c'est ça, c'est le super pouvoir de la déduction. Mmh. Ce super pouvoir de la déduction montre que l'Occident... à la fois croit en lui-même, en elle-même. C'est marrant, Occident, je ne sais jamais si c'est féminin ou masculin, j'aime bien dire les deux.
L'Occident, ça dépend des fois.
Oui, c'est ça, exactement. Donc ici, le super pouvoir de la déduction, c'est le fait que ne vous en faites pas. Mm-hmm. Ne vous en faites pas. Nous sommes fous. C'est ce que disent quand même ces films. Ouais. Que ce soit les super-héros ou que ce soit Sherlock Holmes, nous sommes fous, fous et raisonnables. Nous sommes complètement fous, mais nous réussirons à dépasser cette folie. Justement, parfois c'est l'amour, alors là, typiquement hollywoodien, ou le moment le plus important pour toi qui est dans l'histoire du cinéma, c'est évidemment la camaraderie, l'amitié. Tous les Western Spaghetti, si je me permets encore de revenir à Sergio Leone, à Eastwood et aux autres, hein, évidemment, parce qu'il n'y a pas que lui, mais en tout cas, c'est la camaraderie qui, elle, peut justement sauver de cette folie. Camaraderie qu'on retrouve, évidemment, chez Sherlock Holmes. Mais c'est ce que tu disais là, ouais, super pouvoir de la déduction, je vois ça comme ce que tu disais, c'est une image graphique en fait, de la conscience. Ouais. Le travail qui a été fait par Guy Ritchie, c'est vraiment les images graphiques, on pourrait presque dire une spectrographie.
Ouais.
Tu sais, c'est image mentale, j'arrive pas à trouver le terme exact, les images en fait de neurobiologie. Mais en fait, on a ces images mentales de neurobiologie et puis image mentale de la conscience. Et puis spectrographie, on n'est plus chez les fantômes. Mais c'est ça en fait, c'est toujours ce rapport entre je comprends le monde, mais il m'en manque. C'est ce qui m'intéressait, chez Sherlock Holmes, ou dans l'article, pour terminer là-dessus, je parle parfois, une de mes conclusions, c'est de dire qu'il est aussi comme un Frankenstein. C'est-à-dire que Sherlock Holmes représente aussi une forme de Frankenstein, donc de Frankenstein de la raison, qui lui-même... Frankenstein de la raison, hein, c'est Frankenstein, puisque c'est un docteur. C'est ouais. justement ici un côté bourgeois, ce que j'appelle le surmoi savant, le surmoi bourgeois. Donc quelqu'un qui se maîtrise. Ah oui, mais par contre, dans la folie, il ne se maîtrise pas du tout.
Ouais. Et oui, tu parles bien du docteur Frankenstein.
Oui, bien sûr.
Pas de la créature de Frankenstein.
Les deux, en fait. Ouais. Parce que, bien sûr, le docteur Frankenstein et le Frankenstein, lui, sa créature s'appelle Frankenstein. Enfin, on ne sait plus, d'ailleurs, on l'appelle la chose, c'est pareil, c'est the thing. Ouais. C'est la chose, c'est un truc, quoi, c'est un dispositif. Alors là, c'est Gestell en allemand. J'aime bien le Gestell, c'est le dispositif. Bah, lui, en fait, Frankenstein, enfin, la créature du docteur Frankenstein, c'est un Gestell. Un Gestell qui fait quoi? Bah, qui, en fait, qui revit, donc retour. Donc ici, il revit parce que, justement, un médecin a décidé qu'il allait lutter contre la mort. Enfin bon, on le sait, hein, ça nous traverse, puisqu'en fait, toute la fiction, pour citer, on a parlé tout à l'heure de Lévi-Strauss, on peut parler de Gilbert Durand, que j'utilise de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps. La fiction est en général, pour Gilbert Durand, qui était un anthropologue des imaginaires, la fiction est une euphémisation de la mort. Donc, chaque rituel... On avait ça chez Durkheim aussi, mais chaque rituel va permettre en fait d'euphémiser la mort et d'essayer de l'approcher, voire de la comprendre. Et évidemment, quand on approche et on comprend, on revient à enchantement des enchantements. Bah oui, on est enchanté des enchantés, quoi. Point barre.
Il y a un côté hubris avec Frankenstein. Et tu parlais de la camaraderie donc, qui permet à Sherlock finalement d'avancer. Et il y a aussi l'adversité, puisque Moriarty fonctionne comme un double de Sherlock qui est donc le même, aussi intelligent, mais qui a décidé, lui, de faire le mal.
Là, comme tu le dis, l'adversité, on est dans la camaraderie, on peut avoir des adversaires qui sont camarades, ou alors on peut avoir des adversaires qui ne le sont pas. Et bien évidemment, là, on est en plein dans un personnage qui utilise ce qu'on appelle toutes les fils de la fiction. Mais en fait, cette fiction, c'est Platon. C'est-à-dire que c'est la dialectique qui va se déplier. Donc la dialectique, hein, c'est un mouvement où il y a de la contradiction. Et au fur et à mesure, on va arriver vers un dénouement et il y aura de moins en moins de contradictions. Et en fait, pour Sherlock Holmes, il faut de la camaraderie avec, avec son docteur, et puis Watson, et puis il faut du Moriarty. Et ce qui est drôle, j'ai un peu effleuré ça, mais... tout le monde le sait, Il y a cet aspect homosexuel très important parce que il est homosexuel au sens d'homosocialisation. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément homosexuel au sens de l'appétit sexuel, mais on est homosexuel au sens de l'homosocialisation. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est, on est fait par des hommes. Mmh. Donc évidemment, comme les jeunes femmes ou les femmes et les jeunes hommes ou les hommes, nous avons aussi des pères symboliques, nous avons des pères imaginaires. C'est en rigolant, quand j'ai cité Clint Eastwood ou Snake Plissken, ouais. Quand on est petit, on peut avoir justement un attrait non homosexuel, mais en tout cas d'homosocialisation, c'est clair, net, précis, pour justement une figure qui peut s'appeler donc une figure du père symbolique ou une figure imaginaire. En tout cas, ici, oui, il y a cette nécessité et cette... c'est beau parce que, enfin, c'est beau parce qu'en fait, le personnage a besoin de Moriarty, mais comme tout gentil a besoin d'un bon méchant, ouais. Hein, le bon gentil ou le gros gentil a besoin d'un gros méchant. Ouais. Et puis Sherlock Holmes, lui, il va chercher deux personnages qui lui font devenir qui il est. Mmh. Moi, je trouve ça plutôt, enfin, d'un point de vue de la fiction, c'est intéressant, et d'un point de vue, si on fait un peu de philosophie, c'est évidemment intéressant aussi, puisque il va être encore plus lui-même.
Et il y a même en plus un troisième personnage qui le complète, qui est Mycroft, son frère plus intelligent, visiblement.
Alors c'est marrant, je pensais que tu allais parler de la femme.
Eh ben, non, mais pour parler de l'homosocialisation.
Oui, l'homosocialisation, ouais. Avec son frère, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que Doyle a dû ajouter, j'en sais rien, je suppose que Doyle a dû ajouter la femme, donc Irène Adler, ouais. Peut-être justement parce que le personnage était trop... Enfin, t'es entouré comme ça de trop d'hommes.
Un peu trop masculin.
Mais bon, bref, trop masculin. Enfin, bref, en tout cas, la femme, c'est amusant parce qu'elle est représentée aussi d'une manière très différente. Et là, on retrouve des choses qui nous intéressent, différentes selon les époques, évidemment, selon les époques et selon la nécessité du film, ouais. ou des séries.
Cette émission touche à sa fin, c'est passé très vite.
Et voilà.
David Morin-Ullmann, merci beaucoup d'être venu. Alors, on rappelle donc quand même cette publication qui va pas trop tarder, fin de l'année, début d'année prochaine.
Oui, j'ai hélas pas le... Mais les presses universitaires de Rennes donc, publient quelque chose qui devrait s'appeler « Esprit de la découverte et de la science ». Et donc, c'était un colloque qui a eu lieu à Strasbourg il y a maintenant, je pense, un an et demi.
Ok. Et pour ceux que ça peut intéresser, nos auditeurs et nos auditrices, où est-ce qu'on peut retrouver des infos sur toi sur Twitter, peut-être ou...
Alors, je suis un homme public. Donc, un homme public, ça veut dire qu'on m'appelle... Donc, je m'appelle David Morin-Ullmann. Donc, évidemment, il y a des choses en tapant David Morin-Ullmann. On peut trouver des articles gratuits universitaires. Donc, j'allais dire universitaires fouillés. Avec des notes, etc. Donc, gratuitement sur le net. Il y a également des choses qui sont sur LinkedIn. Donc, le réseau, là, j'y mets mes cours. J'y mets, en fait, certains de mes cours en histoire de l'art, certains de mes cours en sociologie, parfois des billets d'humeur, etc. Oui, s'il y a des gens qui veulent fouiller, bah, ils trouveront peut-être sur... faudra fouiller un peu plus pour ce qui est de Twitter,
oui.
J'ai un blaze, mais je ne veux pas forcément. Ouais, il faut que
pas
les gens, ouais, les gens pourront fouiller. Je crois que ça s'appelle stalker.
Oui, c'est
voilà,
le terme.
Donc ils vont stalker pour voir un petit peu. Voilà, je suis producteur de comme je dis, je suis industriel dans la tchatch. Producteur de petites phrases courtes, des aphorismes.
Très bien.
Ou de petits poèmes.
Eh ben, merci beaucoup, David, d'avoir été présent avec nous.
C'est moi qui te remercie vraiment, Alexis, vraiment beaucoup.
En tout cas, merci, c'était très chouette. Et on termine avec donc, la musique d'une autre série télévisée d'animation, cette fois-ci, Sherlock Holmes, années 80, par un studio japonais. C'est le générique de fin chanté en français, donc ça rappellera quelque chose à ceux qui sont nés dans les années 70 et 80. Merci beaucoup.
Et namasté.
Et au mois prochain pour plus de 100 ans de cinéma. Merci. Moriarty le méchant.